Toilette.
Attends, ça marche pas. Allô, oui, bonjour. Vas-y, réessaye. Vas-y.
Bonjour.
Voilà, pardon. Excusez-nous pour le petit problème technique. Hein. On avait commencé l'émission avec le mauvais micro.
Je reprends donc. Vous êtes bien. Évidemment, problème technique égale j'enrage. Vous êtes bien sûr j'enrage. Sur RCV 99 FM, nous sommes le dimanche 9 mars. Il est un peu plus de 4 heures. Et dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons vous présenter d'abord une rubrique BD, comics, donc dans lesquelles nous allons aborder, dans le désordre ou dans l'ordre, on verra, Batwoman, Le bleu est une couleur chaude, Mauvais genre, C'est toi ma maman, point d'interrogation, Mal occidental contemporain et Y, le dernier homme. Donc ça en première partie d'émission à peu près, et en deuxième partie, nous présenterons également un documentaire qui s'appelle Le clitoris, ce cher inconnu. Je vous laisse juste sur le titre. Et avant de commencer l'émission en tant que telle, petit point sur l'agenda. Donc le samedi 15 mars au cinéma L'Univers, à 20h, il y a un film qui s'appelle Women Art Revolution. Donc qui est un témoignage sur le Feminist Art Movement aux États-Unis, réalisé par Lynn Hershman, donc Lynn Hershman Leeson, pardon, une des protagonistes de ce mouvement. Donc voilà, c'est à 20h et c'est dans le cadre comment ça s'appelle ?
C'est une série d'un des... Oui, voilà, c'est ça, à mon avis, mais je suis pas sûre et certaine non plus. Oui, cycle des rencontres féministes, voilà. Et puis, il y aura un débat juste après, et puis, et voilà. Tu as autre chose à ajouter ?
Non, je ne pense pas pour le programme d'aujourd'hui.
Bon, alors, passons tout de suite à la rubrique BD / comics, sans transition. Alors, rubrique dédiée à nos lectures de BD comics, qui soit abordent des questions féministes, soit représentent des identités et sexualités lesbiennes, ou encore la place des hommes dans une société où les femmes sont des sujets de leur propre sexualité ou trajectoire de vie, par exemple. Alors évidemment, cette rubrique n'a pas prétention à être exhaustive, hein, bien sûr, on ne peut pas vous présenter 30 000 BD non plus. Et puis voilà. Et on vous présentera 6 BD comics. Elle vous a donné les noms tout à l'heure, il y a 2 secondes,
oui.
Annaëlle. Et puis si vous avez envie de nous parler d'une BD qui vous a plu et qui recoupe ces questions-là, n'hésitez pas à nous appeler au 03 20 54 54 00. Je répète, 03 20 54 54 00. Ou tout simplement, si vous voulez rebondir sur quelque chose qu'on a dit, et vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, vous voulez ajouter ce que vous voulez. Voilà. Alors, tout de suite, commençons par Batwoman. Alors, je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois en abordant la question de la visibilité des identités LGBTQI dans les productions culturelles, qu'il s'agisse de cinéma, littérature ou autre. Et du coup, là, je vous en parle cette fois-ci plus en détail, parce que j'ai omis pas mal de détails, en fait, je m'en suis rendu compte après. Alors, malheureusement, je peux pas trop vous informer sur où ils en sont en France au niveau des éditions, des publications, parce que je les lis en anglais. Et puis les comics, c'est un peu compliqué. Ils sortent d'abord en petits livrets d'une vingtaine de pages et après ils sont compilés en tomes. En ce qui nous concerne, sont sortis un tome 0 qui s'appelle Elegy, écrit par Greg Rucka et dessiné par James H. Williams III, qui reprend les origines du personnage de Batwoman, mais qui est pas, enfin qui est un tome 0, il est sorti avant les autres et il fait pas vraiment partie de la nouvelle série, mais il a été à la base. Et c'est exactement le même, c'est le même artiste qui a dessiné, etc. Donc ça, on voit pas de différence entre ce tome que j'appelle 0 et les autres. Puis un tome 1 qui s'appelle Hydrologie, et un tome 3 qui s'appelle To Drown the World, qui veut dire noyer le monde ou la terre, quoi, enfin la planète, tous les gens qui y vivent. Et du coup, ces deux tomes-là ont été coécrits et dessinés à la fois par notre Williams 3 dont je viens de parler, et puis un autre qui s'appelle Hayden Blackman. Je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà un troisième tome qui est sorti. Le dernier, donc le deuxième, est sorti en 2012. Après, en livret, il y a eu d'autres livrets qui sont sortis, mais il n'y a pas encore eu de compilation, peut-être, je ne suis pas très certaine. Et puis, malheureusement, les deux auteurs ont démissionné en 2013 suite à des différences éditoriales avec DC Comics, qui est l'éditeur de... Enfin, l'éditeur. En France, je ne sais pas quel est l'éditeur, désolé. Et puis, voilà. Et en fait, ces différentes éditoriales portaient sur un mariage que les artistes voulaient organiser entre Kate Kane, qui est donc la protagoniste, et la détective Maggie Sawyer, qui est sa copine. Et DC Comics ne voulait pas, parce que ben, si elle est mariée, c'est moins intéressant, selon eux.
Ouais, c'est ça. J'avais lu aussi un article là-dessus qui voulait les laisser libres. Ils avaient répondu à la polémique d'ailleurs du fait que c'est pas du tout parce que c'était deux femmes, mais c'était parce qu'on voulait pas les marier, quelle que soit leur orientation sexuelle.
Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet, justement. Des personnages gays, lesbiennes ou bi, il y en a depuis longtemps en réalité. Mais leur sexualité n'est pas vraiment abordée, voire juste insinuée, et elle est représentée de manière assez stéréotypée, de manière générale. Là, la révolution, c'est que notre Kate Kane est lesbienne et que ses aventures amoureuses sont largement intégrées au récit. Deuxième révolution, il n'y a pas vraiment de male gaze, alors ce regard masculin bien connu du vent des comics en plus, où chaque action de l'héroïne est un peu prétexte à montrer ses gros seins et son cul dans des positions qui rappellent parfois la pornographie mainstream, hein, ou enfin les trucs vend Maxime et tout, là, les magazines. Et donc là, justement, ils se sont pas dit on va créer une Batwoman lesbienne pour exciter nos lecteurs masculins. Au contraire, sa sexualité est à représenter de manière assez plausible et réaliste, c'est ça qui m'a vraiment plu dedans. Je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. Alors, par exemple, les auteurs racontent sa rencontre avec le détective Sawyer, sa copine à partir de cette série-là. Attention, hein, à une soirée de gala où toutes les deux sont en smoking. Quand même assez cool, hein. Oui, on voit pas ça tout le temps. Et par exemple, interroge la politique du don't ask, don't tell de l'armée états-unienne, puisqu'en réalité, Kate Kane était censée faire carrière dans l'armée de terre et elle a décidé de démissionner quand on lui a demandé de mentir en reniant son homosexualité. Ah ah! Donc c'est quand même un peu la base de pourquoi elle est devenue Batwoman, hein, faut le dire. Donc sa sexualité, c'est une partie intégrante du personnage. Et voilà. Donc le terrain de jeu de Batwoman, c'est Gotham City, donc comme Batman en fait. Et elle a commencé à y intervenir en enquêtant sur la religion du crime, alors que Batman était parti faire le tour du monde. Je vous passe les détails, c'est hyper compliqué. Les comics, tous les personnages se connaissent, font partie d'un même univers. Bref. Et à ce moment-là, du coup, elle collaborait avec sa copine d'alors qui est Renée Montoya, qui a été outée, tout ça. Je vous passe vraiment les détails, mais il y a des putains de trucs super intéressants aussi. Mais j'aurais pas fini. Bref. Dans nos tomes à nous, tout ça s'est déjà passé. Et elle est avec une nouvelle détective dont je vous ai parlé déjà, qui s'appelle Sawyer. Alors l'intrigue permet l'émergence de plusieurs personnages intéressants. Son père tout d'abord, Jack Kane, qui est colonel et en quelque sorte mentor et confident de Batwoman. La sœur jumelle de Kate Kane, qui a été kidnappée quand elles étaient petites, et qu'elle retrouve, mais je vais pas spoiler là. Chase, qui est une agente du FBI en gros, et qui est une autre femme en smoking d'ailleurs. Sa cousine, Beth Kane, qui fait partie des Teen Titans et intervient dans Batwoman en tant que Flamebird, et dont Batwoman est aussi la mentor. Bref, toute une panoplie de personnages fort intéressants, ma foi. Ces derniers enrichissent le travail des auteurs concernant le portrait psychologique de l'héroïne, qui finalement a beau être une femme convoitée par ses lectrices, lecteurs et lectrices bien sûr, est une super héroïne et elle n'est pas infaillible, non. Elle est un peu introvertie, elle a la fâcheuse tendance à se recueillir sur elle-même quand ça ne va pas, enfin bref. Et elle fait un peu cœur de pierre des fois, enfin bref. C'est un peu un personnage attachant quoi. Et mis à part tout ça, le dessin et la couleur sont quand même à couper le souffle, je trouve. C'est un dessin assez chargé, un peu baroque limite quoi. Mais bon, c'est des comics, donc c'est complètement à l'opposé du courant minimaliste. Hein. Et puis j'adore personnellement le fait que Batwoman soit un personnage limite que j'appellerais gothique. Parce qu'elle est, en fait, elle est blanche cadavérique. Elle a un costume noir rehaussé d'une superbe chevelure lyonnaise rouge. Et elle a quelques accessoires qui rappellent cette couleur, comme ses bottes et puis ses gants. Et voilà. Et puis c'est un peu une couleur sanguinaire quand même. Donc ça fait un peu gothique sur les bords, mais ça lui va à merveille.
La psychologie des personnages est vachement bien travaillée, non ? Enfin, ouais. D'après ce que tu racontes. Enfin, moi je l'ai pas lu, mais. Ça donne envie en tout cas.
Ouais, ouais, non, il est vraiment bien. Moi, je les ai en anglais. En français, je peux pas vous parler de la traduction. Mais je vous invite vraiment à les lire. Donc voilà, c'était Batwoman. Par contre, je peux pas vous donner trop de détails sur les éditeurs en France, etc. Je suis désolée.
On cherchera.
Voilà. Juste bémol, le comics, il reste difficile à lire à cause de la narration. Parce qu'en gros, sur 5 pages, mais ça, je l'avais déjà dit la dernière fois. Sur 5 pages, on peut avoir 2 pages sur ce qui s'est passé il y a 10 ans quand elle était... Enfin non, par exemple, il y a 20 ans quand elle était gamine. 2 pages juste après sur il y a 2 heures, il s'est passé ça. Et une page et demie sur un autre personnage qui est en train de faire quelque chose au présent, tu vois. Donc c'est un peu difficile des fois de comprendre un peu... Enfin, de suivre la narration, quoi.
C'est pour pouvoir le lire plusieurs fois.
C'est peut-être pour ça, oui. Donc voilà pour Batwoman. Deuxième BD que je voulais présenter, Le bleu est une couleur chaude. Ah bah je pouvais pas passer à côté forcément. Alors il est écrit et dessiné par Julie Marot aux éditions Glénat. Je ne sais pas si tu l'as lu.
Non, moi je suis pas très BD, je commence à m'y mettre, mais, je l'ai pas lu. Non, je l'ai feuilleté, mais je l'ai pas lu.
T'as vu l'adaptation ?
Non, non, toujours plus. Pas.
Ah là 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 là.
Mais bientôt, bientôt.
Alors le dessin, moi je le trouve superbe. Julie Marot a utilisé la couleur de manière assez originale d'ailleurs, en lui rendant un peu son pouvoir symbolique. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours mise à fond à profit, et là je trouve que c'est très bien fait. Puisqu'en gros la narration est faite au travers du journal intime de Clémentine, qui est le personnage principal. Et en gros toute la partie du récit qui appartient au passé est représentée en dégradé de gris. Avec sauf le bleu des cheveux d'Emma dont elle tombe amoureuse. Qui est en couleur quoi. J'arrive pas à faire mes phrases correctement. Et puis quand le récit revient au présent, la couleur revient également. Par contre, il y a toujours cette, il y a un jeu intéressant toujours sur les couleurs. Il y a toujours cette prédominance du bleu à la fois dans le vert qui est très présent dans les décors au présent, hein, bien sûr. Enfin, dans la narration quand ils sont plus dans le passé. Et puis il y a aussi du violet pas mal, et du coup, c'est fait à base de bleu quand même. Et puis la couleur bleue fait aussi le lien entre le présent et le passé dès le début du livre, puisqu'on voit le journal intime de Clémentine au moment où on passe de l'un à l'autre, donc passé et présent, et ce dernier, donc le journal intime, vous l'aurez deviné, étant
bleu.
Voilà. Alors il y a pas de suspense dans cette BD, mais bizarrement c'est une BD qu'on lit en une seule fois, qu'on dévore et on n'arrive pas à s'arrêter quoi. Et puis on l'a fini, on a déjà envie de la relire. Alors le récit, c'est l'histoire de Clémentine en fait, une adolescente qui découvre son homosexualité, le poids de l'hétéronormativité à laquelle elle essaie dans un premier temps de correspondre, autant dans sa sexualité que dans ses normes de comportement, etc., de vestimentaire, blablabla. Et puis elle vit aussi le rejet de certains de ses amis, y en a un qui est gay aussi, donc ça l'aide. Et puis de ses parents quand ils apprennent qu'elle est avec Emma et qu'ils la mettent à la porte alors qu'elle a seulement 17 ans. Et puis elle vit la norme aussi de la monogamie finalement, puisque même si la question n'est pas directement posée, finalement le caractère exclusif de sa relation avec Emma finit par lui faire défaut et lui coûte un peu l'amour de sa vie, quoi. Donc, c'est ça. En fait, faut pas oublier que c'est finalement une histoire d'amour. D'ailleurs, je trouve que c'est carrément une hymne ou une ode à la différence, la tolérance, l'amour et la compassion.
Ouais, c'est beau.
Voilà. D'ailleurs, en ce qui concerne les scènes d'amour, pour en finir tout de suite avec la polémique qu'a suscité l'adaptation cinématographique, dans la version de Julie Marot, qui est la bonne version, les scènes d'amour sont érotiques et explicites, sans être vulgaires ou voyeuristes, et en tout cas, il n'y a pas ce male gaze dont j'ai parlé juste avant. Donc voilà, elles sont très très bien faites, elles sont très belles. Sinon, la BD se présente sous forme de roman initiatique. Donc, puisqu'on connaît Emma quand elle est encore ado, et puis elle finit, la BD finit, je vous donne pas la fin, mais c'est une fin un peu tragique, mais elle finit, elle a 30 ans ou une trentaine d'années en tout cas. Et je pense, enfin moi, ce qui m'a touché le plus dans cette histoire, c'est en tant que lecteur ou lectrice d'être témoin un peu de ce conflit intérieur qu'a Clémentine, qui veut à la fois paraître normale aux yeux de son entourage, mais réussit pas. Et puis, veut pas s'interdire son histoire d'amour avec Emma, qui l'intrigue au début et puis dont elle tombe follement amoureuse.
Ouais, la découverte de l'amour homosexuel aussi, qui est pas forcément évident à porter. Si en plus elle est mise dehors par ses parents,
voilà.
Et tout.
Et du coup, c'est un espèce de dilemme intérieur, parce que donc elle veut paraître normale, elle veut pas s'interdire son histoire d'amour, et son histoire d'amour l'exclut de cette normalité. D'autant plus qu'Emma fréquente les cercles féministes. Et du coup, finalement, ce refus d'être, lesbienne tout à fait, on va dire, ou en tout cas bisexuelle, hein, elle aurait pu choisir l'un ou l'autre, mais non, elle garde sa sexualité secrète, finalement, auprès de ses collègues, etc. Ça lui a un peu coûté sa relation aussi, je pense. Et voilà. Et je terminerai quand même présentation du bleu est une couleur chaude par une phrase que dit Clémentine, page 20, donc c'est au début de la BD. Elle dit quand même: je suis une fille et une fille, ça sort avec des garçons. Voilà. Et je trouvais que c'était assez représentatif du reste de la BD.
D'accord. Sans commentaire?
Non, mais enfin, si, ça peut être commenté, mais oui, voilà. Non, mais... Ça reprend cette norme, enfin, le poids de cette norme qui est l'hétérosexualité et qu'elle a du mal, enfin, dont elle a du mal à s'affranchir. Voilà, on va passer tout de suite à Mauvais Genre. Je te laisse la parole.
Bah ouais. Alors, enfin, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas très BD, enfin, je commence à m'y mettre. Et donc, une des dernières en date que j'ai lues et une des premières aussi, c'est Mauvais Genre. Donc, Mauvais Genre, c'est une BD de Chloé Cruchaudet, qui a été plusieurs fois primée d'ailleurs depuis. Qui a eu plusieurs prix, enfin bref. Et en fait, c'est tiré d'une histoire vraie, cette BD, qui s'appelle La garçonne et l'assassin. Et l'histoire, en gros, c'est Paul, un soldat de la Première Guerre mondiale, qui est obligé de se cacher, parce qu'il est déserteur. Et donc, au bout d'un moment, il en a marre de tourner en rond dans son appart avec sa femme qui travaille toute la journée, donc lui s'ennuie. Et donc, il va emprunter les vêtements de sa femme. Et du coup, se travestir pour pouvoir sortir. Donc en fait, au début, il y a une espèce d'apprentissage. Sa femme l'initie un peu à l'art féminin, si on peut dire ça comme ça. Le maquillage, épilation, etc. C'est des passages assez drôles de la BD, d'ailleurs. Et assez vite, Paul y prend goût Chloé Cruchaudet, d'ailleurs, l'auteur dit que c'est un peu comme si l'élève dépassait le maître, en fait. Donc, il va même trouver un emploi, etc. Ce qui provoque un désaccord et un déséquilibre dans son couple avec Louise, donc sa femme, parce que ça suscite pas mal de jalousie, parce que Paul, en femme, donc, dont le pseudonyme féminin est Suzanne, est presque plus féminine que Louise, enfin bref, donc c'est assez, il y a tout un passage assez difficile dans le couple. Et en fait, ce qui est assez,
enfin je l'ai pas lu, mais à mon avis, j'imagine qu'il traverse par la crise j'étais mariée à un homme et puis l'homme avec qui j'étais mariée est une femme, etc. Peut-être.
Bah, pas trop. En fait, ça tombe pas trop là-dedans. Par contre, ce qui se passe, c'est que Paul, il a un fort caractère, il est assez charismatique, etc. Et en fait, il est assez extraverti aussi et il adore être remarqué. Et donc, quand il est en Suzanne, il adore être remarqué aussi, et d'autant plus parce que pour lui, c'est un jeu et un travestissement, et donc c'est toujours il pousse un peu le truc en se disant jusqu'où je peux aller sans me faire remarquer, mmh. en fait, enfin sans être démasqué. Et du coup, il travaille dans l'atelier de broderie de Louise. Et donc, il n'y a que des femmes autour de lui et qui vont toutes accourir auprès de la nouvelle, etc., qui est en plus très belle, qui prend très soin d'elle, fort maquillée, etc., par rapport aux autres brodeuses. Et du coup, Paul reste quand même, enfin, Suzanne reste quand même Paul. Enfin, en fait, c'est assez compliqué. Au début, la BD peut être lue en deux parties. Dans la première partie, il reste Paul. Enfin, je veux dire, quand il rentre chez lui, il se remet en garçon, etc. Enfin, c'est vraiment un travestissement pour pouvoir sortir. Et donc, il reste masculin. Enfin, je sais pas trop comment expliquer pour pas faire de. Enfin, bref. Et donc en fait lui adore être vu mais comme un mec peut aimer être vu par des femmes, sauf que par rapport à toutes les autres brodeuses il est une femme, donc en fait assez vite toutes les autres brodeuses pensent que Suzanne est lesbienne, etc. Donc il y a aussi tout ce pan là qui est, mm-hmm. qui est sous-jacent et ce qui rend Louise très jalouse parce qu'en fait Suzanne du coup a une cour de femmes autour de lui que Louise supporte pas que ouais c'est ça et que Paul cultive et que Suzanne peut pas trop cultiver sinon elle passe pour une lesbienne, etc. Enfin bref, donc les personnages, la psychologie des personnages est assez bien campée aussi, surtout celle de Paul plus que celle de Louise qui peut être un peu décevant, mais en fait au fil de l'histoire on s'en rend pas trop compte, enfin voilà. Et donc en fait dans la enfin je disais tout à l'heure que c'était tiré d'une histoire vraie, donc La garçonne et l'assassin. Et en fait, c'est pas du tout un roman, La garçonne et l'assassin, c'est un essai historique. Et donc, c'est la BD est tirée de cette histoire-là. Donc la BD, pour le coup, est romancée, mais elle reprend énormément de passages véridiques. Et en fait, il y a toute une partie du livre aussi qui se déroule, et ça c'est véridique aussi, dans le bois de Boulogne. Parce qu'en fait, Suzanne, elle en a un peu marre, enfin... Paul, on va dire ça plutôt comme ça, Paul en a marre de la vie étriquée qu'il a avec Louise, en fait, maintenant qu'il a découvert le travestissement, etc., qu'il peut sortir. Il découvre aussi, comme il est travesti, une autre partie de lui-même, et il n'a pas envie de rentrer chez lui et de rester avec sa femme avec laquelle il s'ennuie, finalement. En plus, il devient très désagréable avec Louise, qui, elle, est pas forcément super agréable avec lui non plus parce qu'elle est jalouse, etc. Donc, il y a tout un moment où il y a un passage dans le couple qui se passe très mal. Et Paul, pour s'évader un peu de ça, il va un jour se balader par hasard dans le bois de Boulogne et découvrir des pratiques sexuelles diverses et qu'il connaissait pas, en fait. Et donc... je vous passe les détails, il faut lire, c'est plus intéressant. Et puis, il y a énormément de choses que je peux pas vous dire à l'oral qui sont plus parlantes visuellement. Mais donc voilà, donc il va aller dans ce bois de Boulogne, etc. Toujours travesti. Et ce qui fait partie du charme d'ailleurs de sa rencontre avec les personnes dans le bois de Boulogne. Et donc il va devenir une espèce de diva, enfin il va être habitué du bois de Boulogne, etc. Et ce qui va peser sur Louise aussi. Et donc, en fait, un jour, il emmène Louise dans le bois de Boulogne, qui, elle, est pas du tout, qui est pas du tout dans ce milieu-là, qui comprend pas, et qui, en fait, il prend goût. Et Paul, qui est très charismatique, est aussi très jaloux, en fait. Et donc, ce qui entérine les désaccords dans le couple. Je vais pas vous raconter la fin, en fait, j'hésitais à le faire et puis finalement je vais pas le faire, vaut mieux lire, parce que bon, là je vous ai parlé de la situation du couple, etc., mais il y a quand même une fin assez tragique, et parce que ce qu'il faut savoir c'est quand même que La garçonne et l'assassin aussi se terminent mal, parce que si on connaît cette histoire, c'est par un fait divers en fait au départ, donc il y a eu procès. Donc je vous laisse lire la BD et ouais. ou l'essai historique pour vous faire une idée, mais voilà, donc c'est un bouquin assez intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que déjà, c'est sa place, le travestissement, le lesbianisme qui est sous-entendu et toutes les pratiques sexuelles ou genrées, on peut dire aussi diverses et non mainstream. Ça place ça dans un contexte de Première Guerre mondiale déjà. Et donc, en plus, dans les années 14-18, enfin, je veux dire, c'est au début des années 1900. Du coup, c'est un contexte vachement fermé, etc. Et qui est intéressant à lire historiquement et aussi maintenant, parce qu'il y a plein de trucs qui font écho encore aujourd'hui dans cette BD.
100 ans après.
Ouais, exactement. Et donc, c'est... Ouais, c'est un livre assez intéressant. Et je voulais rajouter un truc, sauf que j'ai oublié quoi. Oui, et c'est juste... Non, ça, c'est juste un... Une anecdote. Dans la vraie vie, en dehors de la BD, un des faits qui n'est pas repris dans la BD, mais qui est présent dans l'essai historique, c'est qu'en fait, Suzanne... Elle a été championne de parachutisme en France. Et donc, en fait, ça veut dire que... Donc, sous le pseudonyme de Suzanne. Donc, ouais. En fait, elle a berné les... Enfin, Paul a berné les médecins, etc. Et donc, Paul est championne de France de parachutisme sous son pseudonyme féminin, sans que personne n'ait rien vu, quoi.
Pas voilà. Du tout.
C'est assez drôle comme anecdote.
Voilà, donc... Pardon, c'était Mauvais Genre.
Oui.
Et puis, on va faire une petite pause tout de suite. On se retrouvera juste après. Pour terminer cette rubrique BD, il y en a encore pas mal. On va vous passer un titre de Football, etc. qui est un groupe texan qui est passé à Lille vendredi dernier au Monks, que j'ai eu l'occasion de voir en concert, donc sans m'y attendre réellement, et qui m'a pas mal plu. Alors il s'auto-catégorise comme emo punk. Je vous laisse sur ces mots-là et puis je vous passe le titre Catch the Spirit.
Yeah.
Et voilà, vous êtes de retour sur Jean Rage, votre émission féministe lilloise toujours. Nous sommes toujours sur RCV 99 FM. Je sais plus. Oui, bon, on va poursuivre cette rubrique BD qu'on vous a préparée. Alors, prochaine BD, une BD qu'on m'a offerte à mon anniversaire. Donc il y a quelques semaines, on est le 9. Ouais, il y a 10 jours, quoi. Que j'ai dévoré aussi, mais là, pour le coup, je l'ai lu en plusieurs fois parce que c'est impossible de le lire en une seule fois. Qui s'intitule en français « C'est toi, ma maman ». Alors par contre, je trouve que la traduction est un peu mal foutue parce que ça aurait dû être traduit par « mère » en anglais, parce que c'est pas « Are you my mom » en anglais. Mais bon, c'est pas très grave. Enfin si, c'est chiant, mais bref. Donc, qui est le dernier roman graphique d'Alison Bechdel aux éditions De Noël Graphique. Il a été sélectionné au Festival d'Angoulême de cette année 2014, auquel elle était invitée d'ailleurs, et il a été largement applaudi par la critique. Alors tout de suite, avant de vous en parler plus, moi j'aimerais quand même vous dire que c'est pas du tout un roman accessible. C'est fait par et pour des intellectuels, en gros, voire même des fanats de psychanalyse. Il est extrêmement difficile à lire. La narration...
Ah ouais, à ce point-là ?
Ouais. J'ai vraiment galéré. La narration est trop souvent polluée, on va dire, par des interventions un peu métalinguistiques. Alors, c'est pas, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais oui, enfin, ça convient pour certains moments et d'autres non. Mais en tout cas, en gros, le récit est constamment perturbé. Ou ponctué, si on veut être un peu plus objectif, mais moi je dirais perturbé, par l'introduction de citations d'ouvrages, notamment Donald Winnicott, qui est un pédiatre anglais très connu, mort dans les années 70, et des citations aussi de Virginia Woolf, de plusieurs de ses romans et de d'essais qu'elle a écrits aussi. Et puis aussi d'autres auteurs, mais surtout ces deux-là. Et d'analyses aussi faites par Bechdel sur ses lectures. Et en fait, ils viennent enrichir sa propre réflexion, mais c'est un peu trop à mon avis. Du coup, c'est tout sauf...
Ça alourdit du coup.
Ouais, ça alourdit vraiment la narration. C'est tout sauf une BD grand public. C'est pas du tout accessible. Et j'ai envie de dire, heureusement que c'est un roman graphique et que la qualité du dessin est... et de l'ancrage viennent pallier au manque de fluidité et de légèreté de la narration écrite, parce que c'est vraiment lourd, quoi. Ça fait un peu soupape, ça permet de respirer, parce que la lecture, elle est vraiment essoufflante, d'autant que le roman fait 295 pages, donc presque 300. C'est quand même énormissime.
C'est dommage, parce que si tu l'as dévoré, c'est que ça a l'air super bien et qu'il y a des trucs à en tirer, mais voilà. Si c'est pas accessible à tout le monde, c'est dommage quand même.
C'est vraiment le gros bémol de la BD.
Faut le faire lire et faire des notes de lecture et des résumés.
Non mais il manque 5 ou 6 pages, j'ai pas eu le temps de lire la fin, mais je t'avoue que je dois le relire et je vais devoir le lire 3 fois avant d'être sûre d'avoir tout saisi, quoi. Bref, malgré tout, je dois dire que j'ai adoré. Un peu contradictoire, hein, je sais. Donc je vous invite quand même à le lire.
Non, tu es une intellectuelle.
Non, mais j'ai trouvé ça génial. C'est un roman d'introspection, en fait. C'est ça le truc. Et puis d'objectivation, un peu d'extériorisation de l'ego, on va dire. Donc c'est ça aussi, c'est forcément hyper égocentrique. Parce que toute la BD est centrée sur un personnage et sur ce qu'elle vit et sur ses divagations, un peu. Psychique, et du coup c'est un peu hyper nombriliste sur les bords, quoi. Donc au-delà de la difficulté de la lecture, il faut en plus aimer le genre. Mais bon, moi j'ai adoré, hein, je vous invite quand même à le lire. Donc en gros, le roman avance en 7 chapitres, débutant par un rêve de l'auteur qui sert bien sûr comme point de départ pour des interprétations psychanalytiques. Il écrit en sous-titre un drame comique sur la couverture, mais en réalité il n'y a rien de comique, hein. C'est pathos, pathos, pathos. Et moi j'ai trouvé que c'est une histoire qui m'a avalée, qui m'a digérée et qui m'a dégurgitée juste après, quoi. Donc ça m'a pas du tout laissée indifférente, mais ça m'a pas fait me sentir bien du tout, quoi. Ça m'a un peu altérée et ça m'a grave chamboulée, quoi, en fait. Parce que ça pousse à l'introspection,
sa propre introspection, quoi.
Et du coup, voilà, la narratrice auteur, donc qui est Alison Bechdel, qui s'appelle Alison, la narratrice dans le roman, est en gros sérieusement névrosée. Elle a des troubles psychiques. Et le récit se compose majoritairement de visites chez deux thérapeutes. Donc attention, ça commence déjà à se compliquer. Donc elle a deux thérapeutes. Elle est amoureuse de ces deux thérapeutes. Et en même temps, elle aimerait que ces dernières soient sa mère.
Ah ouais.
Déjà, pour commencer. Donc, il est vachement construit autour de ça. Et aussi de fausses conversations téléphoniques avec sa mère, qui sont en fait des monologues. Et que Allison retranscrit, parce qu'elle est, en fait, elle écrit un... Elle écrit... Donc, en fait, s'opère une mise en abîme tout le long du roman, parce qu'en gros, elle raconte dans le roman son processus d'écriture du roman qu'elle écrit sur sa mère, dans un roman qu'elle écrit sur sa mère. Je sais pas si vous avez compris, si c'est clair.
Oui, c'est clair.
Et puis voilà, donc c'est déjà compliqué. Et il y a aussi pas mal de passages sur son enfance qu'elle analyse soit seule, soit avec ses thérapeutes. Et en gros, voilà, sa mère, c'est un peu une... C'est une artiste... C'est une comédienne qui a été mariée à un homme qui a fait la guerre du Vietnam, si je me souviens bien, et qui, en fait, dans son premier roman qui s'appelle Fun Home, Alison Bechdel a écrit un roman sur son père cette fois-ci, qui, en fait, est un homosexuel refoulé. Donc, en gros, la mère, c'est un peu une mère... Enfin, c'est la femme d'eux qui était femme d'homosexuel, donc c'est un peu un échec aussi pour elle. Enfin, bref, c'est un personnage hyper compliqué aussi. Et d'ailleurs, sa mère, à qui elle essaie de faire accepter son homosexualité dans le roman, rejette en même temps l'idée du roman d'introspection, parce que sa mère lit beaucoup vu qu'elle est comédienne. Elle lit pas les mêmes auteurs que Alison Bechdel, mais en gros, elle interroge la valeur même, enfin la valeur littéraire même du genre
introspectif
que Alison est en train de d'écrire. Et du coup, au sein même du récit, l'idée même du récit tel qu'il est remis en question. On continue dans les trucs un peu compliqués. Je sais pas si vous avez bien saisi.
Si, moi oui, les auditeurs, j'espère. Bon,
j'espère, oui. Et du coup, finalement, c'est seulement vers les trois quarts du roman graphique qu'on comprend un peu où veut aller l'auteur, parce que sinon, il n'y a pas trop... Enfin, il y a une direction, mais elle est un peu dure à saisir. Et on comprend qu'elle veut tuer sa mère, mais symboliquement, bien sûr, via ses thérapies, parce qu'elle entretient une dépendance extrême vis-à-vis de sa mère. Et pour pouvoir renaître en tant qu'adulte à part entière, elle doit le tuer. Et du coup, en racontant ce qu'elle doit faire dans ses thérapies, dans le roman, et en écrivant ça en BD, elle tue sa mère en même temps. Donc c'est performatif en même temps !
C'est trop bien, ça. Non, c'est le complexe des lettres lesbianisées, en fait.
Comment ?
C'est le complexe des lettres.
Voilà, c'est ça, un peu, ouais. Enfin, elle n'est pas amoureuse de sa mère. Elle est amoureuse de ses thérapeutes. Elle n'est pas amoureuse de sa mère, mais elle a une dépendance hyper, hyper forte. Elle a toujours besoin que sa mère lui donne son avis sur ce qu'elle fait et que ça lui plaise. Et sinon, c'est la fin du monde, quoi.
Ouais, il y a juste pas... Par rapport au complexe d'Electre, il n'y a juste pas les sentiments amoureux, mais il y a quand même le désir de tuer symboliquement sa mère.
Voilà, c'est ça. Donc je vous avais dit, c'est un peu pour les intellos. D'ailleurs, pour en finir avec ça, dans le roman même, la narratrice, donc Alison, écrit « Écrire de la fiction ne m'intéresse pas. Je ne peux pas inventer des choses, ou plutôt je ne peux pas inventer qu'à partir de choses qui se sont déjà produites. » Donc dans le roman, elle s'auto-justifie et légitime son écriture introspective que sa mère remet en question.
En plus, si c'est performatif, ça veut dire que ça la touche et donc en gros, elle se soigne par ses bouquins.
Voilà, c'est un peu ça. Enfin, c'est hyper complexe, il y a plusieurs étages, enfin plusieurs niveaux de lecture en même temps.
C'est thérapeutique.
Bref, voilà. C'est un roman, et du coup c'est un roman très sérieux, c'est pas du tout comique. À moins d'avoir un humour très noir, enfin même pas, enfin je sais pas trop, mais en tout cas c'est pas comique. J'ai un peu du mal à en parler, mais en gros sur deux pages c'est un peu compliqué parce que vous pouvez avoir quatre cases de séances qu'elle a avec une de ses thérapeutes par exemple, où elle en profite pour enrichir sa réflexion avec un développement d'une notion psychanalytique par exemple. Le chapitre 3 par exemple s'appelle le faux et le vrai self. Donc là elle reprend carrément, enfin elle cite Winnicott, et puis elle développe un peu sa réflexion. Et puis en même temps, elle fait un retour en arrière, et analyse sur cinq cases un fait de son enfance qui s'est passé. Et puis après, elle revient avec sa thérapeute, et on passe un moment où elle parle avec sa mère, elle se représente en train de prendre des notes pendant qu'elle est au téléphone avec sa mère, et elle insère une réflexion avec une citation sur Virginia Woolf, à qui elle se compare en tant qu'auteur. Donc voilà, sur cinq pages, il y a énormément d'informations, en fait, c'est trop dense. Et c'est déjà sur 300 pages, elle aurait dû en faire deux tomes, quoi, limite.
Ouais.
Mais bon, c'est son style, je pense. J'ai pas lu son premier roman graphique. Voilà, donc bien compliqué. Faut s'accrocher, par contre, génialissime. Le dessin, j'en ai pas encore parlé. Du coup, je trouve qu'il a une place un peu... Pas minorée dans le roman graphique, mais il y a moins de place pour lui, parce qu'il y a énormément à lire.
tout en étant du coup un peu une un répit dans le
voilà,
dans
c'est
le,
ça.
Dans le roman de danse.
Exactement, hein. Exactement. Heureusement qu'il est là. Et du coup, mais c'est quand même dommage parce que je le trouve quand même vachement beau. Il est tout en ton de gris avec pour seule couleur le rose. Et c'est comme ça sur 300 pages. Et il y a vraiment un beau dessin. Donc c'est, enfin, c'est pas que c'est dommage. Je veux dire, ça reste un roman graphique, mais il y a... Je sais pas si on peut faire une analyse en termes de place, mais il y a énormément de textes par rapport au, enfin, au dessin, par rapport à des romans graphiques traditionnels, quoi. Et du coup, pour faire en, en bref, c'est un peu un roman sur comment une mère dysfonctionnelle a rendu sa fille dysfonctionnelle à son tour. Parce qu'elle a développé des techniques de compensation de la dysfonctionnalité de sa mère. Par exemple, elle a arrêté de lui, de l'embrasser quand elle allait au lit à 7 ans, alors qu'elle le faisait encore avec ses deux frères, qui étaient plus jeunes qu'elle. Et par la même occasion, elle est devenue ultra indépendante de sa mère parce qu'elle n'a pas réussi à en faire son deuil. Pff, hyper compliqué. Mais vraiment, il est génial, donc je vous pousse à le lire. Mais il faut s'accrocher, quoi. Voilà. Je vais finir sur une dernière BD. Il y en avait encore une autre. Je la présenterai certainement la prochaine fois parce que sinon, on avait deux trucs à vous dire et en fait, le temps passe vite. Ça va être plus rapide pour celle-là de toute façon. Alors, la BD, c'est Mal occidental contemporain. C'est une BD qu'on m'a prêtée. C'est une BD de François Bégodeau, illustrée par Oubrerie aux éditions Delcourt Mirage. Alors, c'est très agréable à lire. Le dessin est un peu brouillon et donne un peu une sensation d'indécision et un espèce de trait un peu tremblotant, là, qui rappelle un peu la personnalité du protagoniste, je trouve. Donc, en fait, c'est plutôt bien fait. Pourtant, c'est pas le même... Le scénariste n'est pas l'illustrateur, donc c'est rare qu'il y ait autant de... Enfin, bref... Connivence. La couverture donne le ton. On y voit un tout petit homme regardant vers le haut et une énorme jambe de femme qui porte des escarpins et peut écraser notre homme quand elle le souhaite. Donc en fait, la BD parle d'un monde où les femmes ont pris le pouvoir et il s'agirait de notre société actuelle. C'est là qu'il y a déjà un hic, c'est que ben, c'est pas vraiment ce qu'il en est, quoi. Passons au scénario. C'est l'histoire de Thomas, donc notre mâle occidental contemporain, qui est un peu un loser en fait. Et il désespère de ne pas trouver une partenaire. Donc il se donne du mal, il va un peu à tatillon. Il joue la carte du gentleman ici, celle du macho là, du mec sensible avec une autre, blablabla. Il est quand même hyper opportuniste, il va à des... Pardon. Il va à des meetings du PS en se disant « Je vais trouver des meufs, qui... enfin, des meufs au PS, quoi. Bref. » je vais à un meeting féministe, enfin une manifestation pour aller draguer. Enfin, il est quand même hyper opportuniste. Et en plus, tout ça en vain, parce qu'il se fait éconduire tour à tour par toutes les femmes qu'il aborde, ou presque. Donc c'est un regard un peu attendri, on va dire, qui est jeté sur notre anti-héros, qui fait la rencontre d'une panoplie de femmes, toutes très différentes. Du coup, la BD, elle aurait pu être quand même cool, parce qu'on y voit plein de portraits de femmes, on n'y voit pas le portrait d'une femme, enfin de la femme en gros, qui serait... Il n'y avait pas le mâle contemporain et la femelle contemporaine, quoi, on va dire. Il y en a vraiment plusieurs. Mais en fait, cette diversité, elle n'est pas vraiment une diversité. Le problème, c'est qu'elle tombe dans le gros fantasme masculin de la nouvelle femme moderne qu'on voit se profiler un peu page à page. Et qui, en fait, est une femme qui, à la fois, sait ce qu'elle veut, le fait savoir... jouit d'une sexualité complètement débridée, qui est à la fois dispo pour des plans cul, qui préfère des plans cul à trois... par exemple, là, dans ce truc-là, c'est une femme qui vient le draguer, et puis elle le ramène chez elle, et en fait, c'est un plan à trois qu'elle veut avec sa copine, enfin bref. Et du coup, elle est un peu devenue le pôle dominant de la vie sexuelle des hommes, et en tout cas de celle de Thomas, dans la BD. Donc c'est là que le scénario devient vraiment problématique. D'une part, parce qu'il donne à lire une fausse réalité de ce que c'est être une femme aujourd'hui, et parce que les rapports hommes-femmes, sont encore loin, mais alors très très loin d'être inversés comme le suggère la BD. Et puis surtout, ces femmes émancipées sont hyper sexualisées, froides, un peu connasses sur les bords, faut quand même l'avouer. Elles sont dédaigneuses, pardon. Et elles reprennent les codes de la masculinité à leur avantage quand il s'agit de drague, par exemple. Et du coup, elles n'ont aucune considération pour le pauvre Thomas. Donc, en gros, elles sont complètement déshumanisées. Il n'y a pas de connivence qui est permise avec elles. En fait, elles nous paraissent, enfin, qu'on soit une femme ou un homme, ou ce que vous voulez, intersexe et tout ça. Quand on lit la BD, en tout cas, on les trouve complètement antipathiques, les femmes. Et par contre, on s'apitoie sur le sort de... Enfin, théoriquement, bien sûr, moi, ça m'est pas vraiment arrivé. On s'apitoie un peu sur le sort de Thomas qui arrive pas trop à se dépêtrer dans tous ces trucs-là. Il n'y a aucune mention à tout ce qui est, par exemple, rappel à l'ordre que subissent les femmes de manière quotidienne en termes de comportement, ne serait-ce que vestimentaire, tout simplement. Alors que, voilà, quand même, hein.
Le stéréotype de la castratrice, quoi.
Voilà, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Et puis finalement, du coup, on retrouve une vision assez traditionnelle, masculine ou masculiniste, je sais pas, des femmes. Et en plus, une vision assez restreinte de ce que peuvent ou doivent penser les hommes des femmes, à savoir qu'elles sont un peu toutes des trous à bites potentiels. Parce qu'en gros, toutes les femmes qu'ils rencontrent, ils pensent qu'à ça toute la journée. Ils se disent, enfin, toute la BD, c'est...
Ah oui, il cherche pas à se caser, en fait, il cherche un coup.
Non, c'est pas qu'il cherche pas à se caser ou il cherche un coup, mais en tout cas, il a rien dans sa vie à part chercher une femme, voilà. Et il a pas d'autre... Oh, voilà, c'est ça, en fait, qui m'a pas mal gêné aussi. Ils auraient pu... je sais pas, ils auraient pu lui mettre une pote femme qui l'aide dans ses recherches ou qui essaie de lui faire comprendre c'est quoi, enfin, comment comprendre les femmes aujourd'hui, ou je sais pas, un truc du genre, même si c'est pas non plus hyper faisable. Mais même pas, quoi. Enfin, voilà. Il est tout seul, en gros, et puis il est entouré de femmes qui sont des grosses dominatrices castratrices. Pour faire très, très exagéré. Du coup, bah, la BD s'annonçait plutôt bien. Finalement, elle est quand même agréable à lire, mais le discours qui est exprimé est hyper réducteur. À la fois, si on s'identifie au protagoniste, parce qu'on n'a pas des masses de marge d'ouverture, ça reste quand même un macho con. Il y a un attendrissant, quoi, mais il n'y a rien de plus. Donc, en plus, c'est pas vraiment une révolution. Hein. Le mâle occidental contemporain, c'est le même qu'il y a 300 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Il n'y a aucune originalité dans la construction du personnage, je trouve. Et puis, en termes de représentation de ce que serait une femme émancipée, c'est aussi de la grosse daube. Quoi.
C'est pas à prendre au second degré où il n'y a pas de trace d'ironie ou je sais pas quoi qui pourrait un peu sauver la BD
Non, le ton est drôle, enfin, censé être drôle.
Ouais, mais même dans le récit...
Non, il n'y a pas du tout de trace d'ironie. C'est vraiment, voilà ce que c'est d'être un homme de nos jours quand on cherche à se taper des meufs, quoi.
Ouais.
Bref. Et puis, il ne parle pas vraiment de la dualité fichante et pute en chaleur, quoi. Mais, enfin, bref. Ils n'en parlent pas du tout, quoi. Mais bon, ça m'étonne. Enfin, voilà, on pourrait s'y retrouver facilement, quoi.
Ouais,
si, ils en parlent quand même. Enfin, bref. Ils parlent aussi de la chaudasse qui chauffe le mec et qui veut rien avec lui. Enfin, bref. La fille qui veut se faire payer des coups, bref.
Ouais, enfin, c'est bardé de stéréotypes à chaque fois, quoi.
Donc, rien d'original. Ça révolutionne pas du tout. Enfin, voilà. J'ai trouvé ça bof. Et ça aurait pu être bien. Enfin, l'idée n'était pas non plus complètement conne, quoi.
Mais c'est pas super bien traité, quoi.
Voilà. Les dessins restent pas mal. Enfin bref. Du coup, voilà pour notre rubrique BD d'aujourd'hui qui a déjà duré hyper longtemps en fait. Il est déjà 50.
Ouais.
J'avais Y, le dernier homme, à vous présenter. Je vous le présenterai la fois prochaine. Sachant qu'en plus, c'est mon gros coup de cœur. Et si je devais décerner un Oscar Zabi ou je sais pas quoi, bah, ce serait à celui-là que je le décernerais. Donc je vous parlerai de ça. Et peut-être d'un autre que j'avais pas eu le temps de lire, mais du coup, vous aurez le temps, qui s'appelle Locas.
On fait une pause avant que je parle du documentaire, enfin, on met une petite chanson.
On va mettre une petite chanson et puis on reviendra tout de suite. Ça nous laissera pas des masses de temps, mais bon.
Ouais, je le présenterai rapidement.
On fera avec. Et du coup, on va vous passer un groupe qui s'appelle Andromakers. C'est deux filles qui font un peu de la, je sais pas, pop électro acidulée. Je sais pas trop comment appeler ça.
Ouais, c'est assez planant, mais je sais pas comment on pourrait le catégoriser.
Ouais, donc. En tout cas, c'est plutôt pop, quoi. Et puis, c'est un CD de titres. Lanterns of May. Alors je sais pas si c'est l'album. Ouais, c'est ça. L'album, c'est. Bah non, en fait, c'est un CD de titres de Lanterns of May. Moi, j'en ai un deuxième qui s'appelle Lanterns of April. April, pardon. Bref, je vous passe une chanson qui s'appelle Stupid Sun et qui est sortie. Enfin, qui a été enregistrée en studio et qui a été produite, etc. l'année dernière, en 2013. À tout de suite.
This could be another reason I hate this world again. And this could be another season I would never love this moment. This could be another lesson for me.
Nous sommes donc de retour sur Jean Rage, sur RCV 99FM. L'émission est presque terminée, alors rapidement, je vais revenir donc sur ce documentaire sur lequel je suis tombée un peu par hasard d'ailleurs, il y a quelques jours, donc, qui s'appelle Le Clitoris, ce cher inconnu. Donc, c'est un film de Michel Dominici et qui a eu l'idée de faire ce film parce que dans un article du New Scientist, elle a découvert que le clitoris mesurait près de 8 cm. Et en fait, elle ne connaissait pas cette information. Et elle a mené une enquête auprès de personnes de son entourage, etc., qui ne connaissaient pas cette information non plus. Et elle s'est rendue compte que, entre autres sentiments, gêne, colère même parfois, etc., c'était toujours, sa révélation était toujours suivie d'une extrême curiosité. Et donc, en fait, elle a voulu réaliser ce film pour... qu'on parle du clitoris déjà de 1 et qu'on sache quoi en dire et qu'on dise pas de bêtises, parce qu'en fait en regardant le film on découvre qu'il y a plusieurs erreurs qui sont commises depuis le début d'ailleurs, depuis le début de la médecine, même depuis Hippocrate, où il y a pas mal, on a parlé du clitoris, on a arrêté d'en parler, il est devenu tabou, etc. Voilà, donc c'est un film de 2004 si je dis pas de bêtises. Et voilà. Il y a différents intervenants. Je vais vous faire rapidement une espèce de plan du film, parce qu'en fait, il est assez séquencé. Alors, on ne le voit pas. Enfin, il n'y a pas de titre, etc. Mais il y a plusieurs thématiques d'aborder. Donc, en fait, il y a toute la partie anatomique, etc., avec des urologues qui sont interrogés, avec des images de synthèse assez bien faites, justement, sur la manière dont est fait le clitoris, parce qu'en fait, il est très grand, il y a toute une partie qu'on ne voit pas, etc. Il y a aussi toute une partie sur la sexualité féminine qu'on connaît mal et donc de laquelle on n'ose pas trop parler ou de laquelle on parle mal, et donc qui rend obsolète tout le débat des femmes vaginales ou clitoridiennes. En fait, on est toutes clitoridiennes, hein, je vous le dis, parce qu'en fait, même si l'orgasme est suscité par la pénétration vaginale, en fait, c'est parce que le clitoris est et enfin le complexe clitoridien, en fait c'est plus exact parce que c'est assez grand. Donc le complexe clitoridien est excité par la paroi vaginale, en fait
Ouais, c'est un peu comme s'il y avait deux bouts, il y a un bout à l'extérieur et il y a une partie qui est
toute une partie intérieure,
qui est peut-être ce qu'on appelle le point V.
Non, alors ça fait la part belle au point G aussi, parce qu'en fait apparemment ça n'existe pas, enfin d'après quand on regarde le documentaire, en tout cas ça rend obsolète aussi l'existence du point G.
OK, bon.
Parce que c'est abordé d'ailleurs dans le documentaire, l'existence du point G, avec une image de synthèse d'ailleurs qui montre la partie, enfin l'endroit du corps ou de la femme où apparemment devrait y avoir le point G, et qui dit qu'en fait c'est pas possible à cet endroit-là. Et enfin il y a toute une explication aussi, je vais en parler très rapidement, mais toute une explication aussi du fait que l'orgasme ne peut pas être vaginal, parce qu'en fait il y a très peu de nerfs en fait dans le vagin, ce qui prépare à l'accouchement, parce qu'en fait s'il y avait plein de nerfs déjà l'accouchement fait mal, et en plus si la paroi vaginale était couverte de nerfs, ça ferait encore plus mal, quoi. Et donc le clitoris, qui a plus de 6000 terminaisons nerveuses, je crois, c'est le seul point corporel, et chez la femme d'ailleurs, chez l'homme il n'y en a pas, qui sert uniquement à procurer du plaisir.
Et à rien d'autre.
À rien d'autre. Ça sert uniquement à ça. Et donc, du coup, aussi, ça aborde la question des de la clitoridectomie, en fait. Parce qu'il y a une...
Qui est donc l'ablation du clitoris.
Oui, c'est ça. Merci. Et parce qu'en fait, il y a une femme qui intervient et qui est la fondatrice d'une association qui, elle, est née intersexe. Pour le dire rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, mais qui en fait donc est né intersexe, et après des tests sanguins, etc., il a été avéré que c'était une femme, elle avait des chromosomes X et Y. Donc en fait, les médecins, quand elle a eu 4 ans, en plus de la prise de traitement hormonal pour toute la vie qu'elle allait avoir, quand elle avait 4 ans, les médecins ont décidé de lui enlever son clitoris, et totalement, pas partiellement. Et elle explique que déjà, on n'a jamais voulu lui expliquer ce qu'on lui avait fait parce qu'elle était soi-disant trop petite pour comprendre. Et qu'en plus, elle explique aussi qu'avant l'opération, donc jusqu'à à peu près l'âge de 4 ans, elle ne ressentait aucune gêne, elle avait pas mal du tout, enfin c'était pas invivable et rien du tout. Enfin je veux dire, sa malformation génitale était pas, l'embêtait absolument pas. Par contre, après son opération, elle a eu extrêmement mal et elle a beaucoup saigné, etc. Et d'ailleurs, elle a toujours extrêmement mal. Et elle dit que ça joue énormément dans les rapports sexuels. Elle donne des pourcentages, elle dit qu'elle a 95% de douleur dans ses rapports et 5% de plaisir. Et donc, ce qui a énormément joué sur sa vie sentimentale. Donc voilà, il y a toute une partie là-dessus. Il y a toute une partie aussi sur... des cours d'éducation sexuelle qu'on peut donner aux adolescentes, parce qu'il y a toute une université aux Pays-Bas, je pense, qui intervient là-dessus, qui dit qu'il faudrait donner des cours d'éducation sexuelle sans tabou et en parlant du clitoris, et aussi des cours de féminisme. C'est pour ça que je voulais aborder cette phrase ici, dans cette émission. Des cours de féminisme pour que les femmes connaissent mieux leur corps et sachent en parler, comment l'aborder, etc. Donc voilà, ça aborde pas mal de trucs autour du clitoris qui sont assez intéressantes et qui sont abordées uniquement par des spécialistes. Il y a une écrivain qui en parle assez bien d'ailleurs. Et ensuite, il y a deux urologues, une femme qui fait des recherches en psychiatrie sur l'excitation féminine, qui a des expériences d'ailleurs réelles avec des femmes volontaires. C'est une partie assez rigolote du documentaire. Donc voilà, je vous le conseille parce qu'on apprend pas mal de choses et c'est vraiment bien traité.
D'accord, bon ben on a déjà fini, il est 17h pile. On va laisser la place à Gilles et son émission sur le jazz. On vous mettra tous les liens de toute façon. Et puis voilà.
Quitte à réaborder les différents thèmes dans une prochaine émission, mais voilà.
Et du coup, à dans 2 semaines. À très bientôt.
Salut!